Aujourd'hui, on a 1200 sociétés à mission. L'enjeu, c'est effectivement que ce nombre augmente, mais qu'il augmente de manière qualitative, avec probablement quelques rôles modèles ou quelques entreprises un petit peu phares qui montreraient la voie, quelques précurseurs dans chacun des grands secteurs d'activité pour donner envie aux autres d'y aller.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de La Machine à Sens, votre moment pour plonger dans les entreprises à mission. Mon objectif est simple, que ce concept prenne forme pour vous, qu'il nourrisse vos réflexions en direction d'une entreprise plus responsable, et que vous repartiez avec des bonnes pratiques, des écueils à éviter, et surtout, une envie débordante. Je m'appelle Vivien Pertuzot, et j'ai le plaisir de vous accompagner dans cette expérience. Aujourd'hui, je vous présente un épisode un peu exceptionnel, puisque je reçois Hélène Bernicot et Guillaume Desnaux, les nouveaux coprésidents de la communauté des entreprises à mission, pour leur tout premier exercice d'entretien à deux. Alors, outre leur nouveau mandat, Hélène est co-dirigeante du Crédit Mutuel Arkéa et Guillaume, co-fondateur d'Allenvie. Alors, si vous êtes habitué du podcast, vous l'avez déjà entendu il y a quelques mois. Avec eux, on a défriché pas mal de sujets, avec certaines des questions qui ont d'ailleurs été posées par les lecteurs de la newsletter. On a parlé de la dynamique de croissance du nombre d'entreprises à mission en France, de la nécessité de maintenir, voire élever, le niveau d'exigence pour assurer un essor qualitatif du dispositif. On est également revenu sur différentes composantes essentielles du modèle, à savoir le rôle du comité de mission et celui de l'organisme tiers indépendant, qui pour l'un supervise et l'autre contrôle le bon déploiement de la mission. Mais également sur les ambitions de porter le sujet hors des frontières dans d'autres pays européens ainsi qu'auprès des institutions européennes. On a également abordé le sujet du déploiement en région de la communauté car c'est un sujet qui revient assez régulièrement. Bref, l'entretien est dense, riche, à la lumière des enjeux qu'Hélène et Guillaume devront mener avec le conseil d'administration de la communauté, l'équipe permanente et bien évidemment tous les membres de l'association. Surtout que leur choix musical envisage un autre monde, vous verrez. Mais je n'en dis pas plus et laisse place à notre échange. Bonjour Hélène, bonjour Guillaume.
Bonjour Vivien.
Bonjour Vivien.
Eh bien, c'est un grand plaisir de vous accueillir sur le podcast de La Machine à Sens pour cet épisode un peu exceptionnel. J'ai le plaisir de recevoir les deux nouveaux coprésidents de la communauté des entreprises à mission, élus depuis quelques semaines maintenant. Donc c'est vraiment, ça doit être une des toutes premières fois que vous parlez ensemble un média, on va appeler ça un média si vous voulez. En tout cas, ça me fait un vraiment très plaisir de vous accueillir, parce que vous êtes élus à un moment quand même un peu charnière du développement de la société à mission en France. Et puis surtout, vous prenez la mouvance des coprésidences, hein, parce qu'il y a un autre mouvement qui a fait ça, et je trouve que c'est plutôt judicieux aussi pour porter les sujets déjà à deux, parce qu'à tout seul c'est pas simple, mais surtout pour avoir un regard un peu complémentaire, j'imagine, en tout cas j'espère. Et peut-être justement pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter un peu mutuellement une qualité que vous trouvez chez l'autre et un peu la complémentarité que vous allez chercher à avoir en tant que coprésident?
Moi, ce que je trouvais déjà important, c'est d'incarner différentes formes d'entreprise pour montrer que la société à mission s'adapte à tout type d'entreprise. Donc le fait, au-delà de nos personnes, après je vais parler d'Hélène, mais le fait d'avoir Crédit Mutuel Arkéa et Allenvie, ça montre qu'il y a des entreprises parisiennes et des entreprises basées en région, il y a des entreprises grandes et des entreprises petites, des entreprises dans des secteurs qui peuvent paraître à mission presque naturellement, comme le médico-social, et d'autres comme la banque, qui en réalité le sont aussi, mais c'est moins visible par certains peut-être au premier abord. Mais voilà, de montrer qu'il y a une diversité des sociétés à mission, c'était un premier point très important. Et pourquoi aussi faire un binôme avec Hélène? Moi, ce que j'apprécie énormément, c'est le leadership, la nouvelle forme de leadership que Hélène, avec Anne Le Goff, sa co-DG de Crédit Mutuel Arkéa, incarne. Ce sont donc deux femmes qui dirigent une des plus grandes banques françaises. C'est peu commun et je pense que c'est très important de montrer que derrière, à côté de la mission, il y a aussi des nouvelles formes de leadership plus participatives où la décision se fait collectivement. C'est le nom d'un livre qui a été écrit par Anne Le Goff et Hélène Bernicot qui s'appelle « La fabrique de la décision » où elles expliquent comment chez Crédit Mutuel Arkéa, les décisions se prennent de manière beaucoup plus collective et le leadership est collectif. Voilà.
Alors moi, je vais faire beaucoup plus concis. Je vais dire déjà qu'on se connaît depuis peu. C'est une rencontre finalement qui est assez récente Et ce qui m'a particulièrement touchée chez Guillaume, c'est l'alignement. Je trouve que parmi les qualités essentielles du dirigeant d'aujourd'hui et de demain, c'est l'alignement entre les convictions et la manière de fonctionner, la manière d'agir avec une action qui est conforme à ce que l'on pense, à ses valeurs. Et je trouve que c'est extrêmement fort. Et je me retrouve beaucoup dans cette manière de fonctionner. Bien évidemment, je partage ce qui vient d'être dit sur la signification de ce binôme, à savoir il y a à la fois des petites entreprises, des grandes entreprises. Il y a aussi un autre point de complémentarité, c'est Guillaume et au conseil, même au bureau de la communauté des entreprises à mission depuis toujours, j'ai envie de dire. Et moi, je viens de m'intégrer et je crois que c'est effectivement la continuité et aussi la nouveauté qu'incarne ce binôme. Et voilà, on est très heureux de montrer qu'un binôme, c'est une complémentarité et qu'à deux, on fait des choses probablement beaucoup mieux que tout seul.
Bah, très bien. En tout cas, c'est tout ce que j'espère pour la suite des événements. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence par un chiffre qui est un chiffre un peu marquant. On est à presque 1200 entreprises à mission, peut-être un tout petit peu plus. J'ai pas regardé les tout derniers chiffres de l'Observatoire. Donc un peu plus de 4 ans après la loi Pacte. Comment est-ce que vous interprétez ce chiffre ?
Alors, je pense que ce qui est intéressant, c'est de regarder la dynamique. On voit une courbe qui monte, qui est sans doute le début d'un exponentiel. Donc ça, c'est le premier point. Et au-delà du chiffre, ce que je trouve intéressant, c'est d'observer que secteur après secteur, il semble y avoir des vrais rôles modèles, des entreprises pionnières qui se disent « oui, dans mon secteur, on peut affirmer une vision singulière, une volonté de transformation pour l'entreprise, mais aussi pour le secteur. » Et donc, moi, je le vois dans le médico-social où, quelque part, on a été parmi les pionniers, mais il y a un vrai mouvement qui s'est créé avec aussi des affaires qui ont secoué le secteur. On voit d'autres secteurs comme la banque où il y a une vraie dynamique. Donc, pour moi, c'est ce qui est le plus important, c'est de voir qu'il y a de plus en plus de secteurs qui bougent, où il y a des rôles modèles, des pionniers qui sont en train de créer des mouvements. Et donc, je pense que ce chiffre va beaucoup grossir sous l'effet de ces rôles modèles.
Tu viens de dire ce chiffre va grossir. Est-ce qu'il y a une ambition ? Est-ce que l'objectif, c'est qu'il y ait, 10 000 sociétés à mission, 20 000, 30 000 à l'horizon 2025 ?
Je ferai un peu la même réponse. L'objectif, c'est qu'il y ait des dynamiques fortes dans chaque secteur, des rôles modèles qui soient authentiques, qui utilisent, on va aussi en parler sans doute, mais la société à mission d'une manière exigeante et ambitieuse. C'est surtout ça, je pense, l'objectif des trois prochaines années de notre mandat. Après, les nombres, je dirais, suivront, mais il ne faut pas être arc-bouté sur un KPI. Je pense que ce n'est pas la logique de la phase actuelle de diffusion de la société à mission.
Quand on regarde un petit peu la société à mission aujourd'hui, ce que je trouve assez paradoxal ou étonnant, c'est que le modèle a été créé donc initialement par le collège des Bernardins, l'école des mines, etc., avec cette idée de lutter contre l'hyperfinanciarisation de l'économie, l'irresponsabilité des actionnaires dans les sociétés anonymes. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que presque la majorité ou une petite majorité ou grosse minorité des entreprises qui deviennent sociétés à mission sont des entreprises qui ont été créées après 2020. Donc, est-ce que ça montre que les entreprises un peu plus anciennes ont du mal à bouger, justement ?
Alors, je crois que la première chose que nous dit ce chiffre, parce que les chiffres disent des choses quand même, c'est que finalement, ce modèle est probablement insuffisamment connu. Je crois que c'est le premier constat que l'on peut faire. Et donc, il mérite de l'être plus. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je pense qu'il peut être, pour ceux qui le connaissent, vu comme une contrainte supplémentaire, peut-être même un risque finalement de non-conformité, un risque derrière d'être attaqué, puisque ça peut être la première approche. Et donc, tout l'enjeu, c'est de mieux communiquer, mieux expliquer et de démontrer qu'en réalité, ce modèle, cette qualité est une réelle opportunité pour transformer l'entreprise, pour placer au cœur de la stratégie la résolution des problèmes environnementaux, sociétaux. Et donc, nous avons un enjeu, pour revenir à notre enjeu ou l'enjeu, l'ambition, les ambitions que nous avons sur la communauté des entreprises à mission, c'est de mieux faire connaître et mieux faire comprendre ce que permet finalement ce cadre. Et je peux effectivement développer un petit peu. L'enjeu, c'est quoi ? C'est de comprendre, un, que c'est un cadre libre. Il n'y en a pas tant que ça, des cadres libres, puisque le principe de la loi, c'est que chaque entreprise choisit, définit sa mission en lien avec son secteur, son modèle d'affaires, et ça, c'est absolument essentiel. C'est un cadre de progrès, donc c'est pas comme un label, c'est pas un label de vertu, c'est un cadre de progrès, un cadre dynamique, qui a comme objectif de faire progresser l'entreprise. Et là aussi, il n'y a pas tant que ça, finalement, de cadre qui permette cela, et donc, dont l'objectif est de progresser. Puis le troisième le volet, c'est que c'est un cadre, quand même, qui doit être contrôlé, avec une vraie exigence. On a parlé, on va continuer à en parler tout le long. L'exigence, c'est, j'ai envie de dire, l'enjeu de la réussite de la société à mission. Et cette exigence, elle passe au travers, effectivement, du comité de mission, de l'OTI, et de montrer que la société à mission est là pour faire progresser, pour transformer l'entreprise, et n'est pas là pour être un tampon, j'ai envie de dire, pour attirer sans preuve.
Y a un gros travail à faire sur ces points-là, évidemment. Si on regarde les missions qui sont recensées sur l'Observatoire des sociétés à mission, et pour aller dans votre sens à tous les deux sur le niveau d'exigence, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une très très grande diversité. Il y a une étude de KPMG auquel l'Observatoire a largement contribué, qui montre qu'il y a quand même un grand nombre d'entreprises à mission qui ont des missions qui ne touchent pas le cœur d'activité aujourd'hui. On voit aussi qu'il y a des missions qui relèvent principalement de la RSE, d'autres qui sont franchement tellement génériques qu'on voit pas trop comment ça peut servir de boussole, hein, l'image qu'on utilise beaucoup pour parler de la mission. Est-ce que pour vous, cette hétérogénéité, et pas forcément dans le bon sens du terme, est problématique pour le développement du modèle et son essor à terme ?
Alors déjà, c'est effectivement là aussi un constat, hein, qu'il faut relier, je pense, justement à la nature de ce cadre libre. C'est le principe, c'est-à-dire qu'on n'a pas voulu... Il n'a pas été encadré avec des règles précises, donc chacun y est allé... probablement avec de la bonne intention. L'enjeu, là aussi, c'est de venir sur l'exigence. C'est-à-dire que l'intérêt de la société à mission, c'est de progresser. Si la mission ne permet pas cela, probablement, c'est qu'il faudra la changer ou il faudra mettre un petit peu plus d'exigence. Et là, ce que ça pose, c'est effectivement comment on adresse cette exigence. Est-ce qu'on l'adresse a posteriori ou a priori ? Aujourd'hui, c'est plutôt a posteriori, puisqu'effectivement, le contrôle via l'OTI ou même le comité de mission se fait a posteriori. Je crois que l'une des questions, c'est effectivement, est-ce qu'il faut prévoir peut-être a priori, c'est-à-dire... le fait de pouvoir se revendiquer société à mission après un premier audit, ça c'est peut-être la première question. Deuxième question que pose le sujet, c'est est-ce qu'il faut imaginer que certains cadres de contrôle, comme par exemple des commissaires aux comptes, pourraient à un moment avoir un rôle à jouer aussi dans notamment la vérification de la conformité, c'est-à-dire vérifier au moins qu'un OTI est intervenu pour vérifier la mission.
En rebond, je voudrais souligner quand même la richesse de ce processus, c'est-à-dire que presque, j'ai envie de dire presque pour une fois dans la loi française, on a créé un cadre de liberté où on peut expérimenter et ensuite il y a une boucle de rétroaction avec l'Observatoire, la communauté qui joue leur rôle avec des partenaires comme KPMG, puisqu'ils ont été notre partenaire sur cette étude. Et on regarde, bah voilà, on observe, on fait un état des lieux, on souligne des bonnes pratiques. Et en fait, ce processus auto-apprenant, moi, je trouve qu'il a une valeur très importante et je trouve ça super important que la communauté continue à être l'animateur de ce genre de processus d'apprentissage. Parce que, voilà, encore une fois, on a une culture très normative en France et là, on a vraiment quelque chose où tout le monde apprend entre pairs. J'aime bien parler d'experts, P-A-I-R-S, c'est ça la communauté des entreprises à mission finalement, plus que des experts qui vont décréter, voilà, ta mission, elle est du bon côté ou elle est du mauvais côté. Je prends un exemple aussi, moi, qui m'a frappé récemment, c'est qu'on dit, effectivement, il y a des missions qui sont très RSE, mais il y a aussi des missions qui oublient complètement, parfois, l'interne ou des choses qui, parfois, sont du champ de la RSE, mais que pour autant, on leur place aussi dans une mission qui, certes, a vocation à transformer les modèles d'affaires, mais aussi à englober finalement tout ce que fait l'entreprise, y compris des choses parfois qui relèvent de la RSE.
Oui, non, mais alors on reviendra justement sur le rôle de la communauté, hein, parce qu'en soi, toutes les entreprises à mission ne font pas partie de la communauté, donc ne bénéficient pas forcément de cette expertise.
Là, en l'occurrence, c'était ailleurs, l'observatoire, donc ouais, c'est aussi quelque chose qui est ouvert et consultable par tous, c'est aussi dans les missions.
Et alors, si on revient à cette notion de contrôle a posteriori ou a priori, ce que je trouve intéressant, intéressant, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais ce qui m'interpelle, c'est qu'aujourd'hui, certes, dans la loi, il faut se faire vérifier par un OTI, il faut publier l'avis d'un OTI, il faut publier un rapport annuel, etc. Mais aujourd'hui, en réalité, personne ne contrôle cet aspect-là. Est-ce que on peut travailler, est-ce que vous envisagez de travailler sur cet aspect-là ?
Alors, il y a l'Observatoire à qui on essaye de donner cette mission. Donc aujourd'hui, les entreprises, les sociétés à mission peuvent se référencer sur l'Observatoire, indiquer...
Devraient toutes
le faire. Elles peuvent charger leur avis OTI, leur rapport de mission. Et c'est clairement un rôle qu'on souhaite donner, alors en partenariat sans doute avec l'État, à l'Observatoire, d'être l'endroit où, finalement, le tiers de confiance, où on peut observer qu'une société à mission est bien à jour de toutes ses obligations déclaratives. Mais c'est évidemment un des rôles qu'on veut donner. Et bah, Hélène, tu peux peut-être revenir sur aussi plus en détail sur le rôle que pourraient avoir les commissaires aux comptes.
Puisque là, on parle le fait de se faire auditer par un OTI, c'est inscrit dans la loi. Donc on parle ensuite de conformité à une loi. Et logiquement, dans la mission d'un commissaire aux comptes, s'assurer que l'entreprise qui revendique la qualité de société à mission a bien rempli ses obligations réglementaires, ça fait partie de la mission d'un commissaire aux comptes.
Et ça peut faire partie des missions de la SEM de sensibiliser la profession de commissaire aux comptes, mais qui sans doute l'est déjà en partie, sur ce sujet. Mais si on se dit déjà demain, toutes les entreprises qui ont un CAC respectent leurs obligations déclaratives ou abandonnent la qualité de société à mission, on a déjà réglé une partie du problème, en tout cas voilà, pour toutes les entreprises qui ont un CAC. Et après, on peut effectivement voir les solutions. L'Observatoire, je pense, en est une pour les entreprises qui n'ont pas de commissaire aux comptes. Donc voilà, il y a des solutions aujourd'hui qui existent pour que ce cadre d'exigence soit bien utilisé par toutes.
Il faut que tous les commissaires aux comptes sachent ce que c'est qu'une entreprise à mission, peut-être aussi, parce que je ne suis pas absolument certain que ce soit le cas.
Oui, mais ça, je pense qu'on peut y travailler au niveau de la SEM, ça paraît effectivement fondamental.
Alors, est-ce que vous pensez qu'un des moyens aussi de renforcer cette exigence, c'est d'aller jusqu'au bout du processus potentiellement de contestation de la qualité de société à mission et de se dire, le meilleur moyen de montrer que c'est exigeant et que c'est vraiment un mécanisme crédible, ce serait que certaines entreprises se fassent contester la qualité de société à mission devant le tribunal de commerce. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de cas de figure encore, donc...
Je pense qu'on est un peu trop tôt pour qu'il y ait des cas de figure. Après, je pense qu'il y a deux volets. Il y a le premier volet qui est le sens profond en fait, de la société à mission, qui est d'encourager, de permettre, d'accélérer, j'ai envie de dire, la transformation de l'entreprise à travers un cadre, comme on le disait. Donc, le premier enjeu pour les entreprises, c'est de montrer quelque part que cette transformation est à l'œuvre, de venir avec des preuves en quelque sorte. Et c'est ça, je pense, d'abord qui va être regardé. Ça, c'est la première chose. Et c'est un petit peu quand on dit c'est pas un label, hein. C'est-à-dire c'est pas quelque chose de statique, c'est vraiment, il y a l'enjeu de la dynamique et de l'évolution. Ça, c'est vraiment le premier enjeu. L'intérêt des sociétés à mission, s'il n'y a pas de transformation, il est faible en réalité. Et puis après, il y a effectivement le volet plus formel de dire est-ce qu'il faut qu'il y ait des contestations. Je pense que cela viendra probablement si peut-être pas de rapport d'OTI, un premier rapport, on va dire, désagréable, un deuxième désagréable. Je pense que spontanément, c'est probablement des choses qui viendront un peu comme aujourd'hui, de toute façon, un certain nombre d'organismes n'aiment pas le greenwashing. On sera probablement dans ce cas-là dans quelques années.
Il y a une question, justement, tu parlais de... d'avis d'OTI un peu désagréable potentiellement. Une des questions qui m'a été relayée par un lecteur de la machine à sens, c'est sur le rôle de l'OTI. L'OTI a un rôle hyper important en fait, hein, dans toute cette structuration là. Est-ce que vous estimez que l'OTI devrait avoir un rôle de conseil vis-à-vis des entreprises à mission lorsqu'il fait sa vérification et dire bon bah là vous devriez améliorer cet objectif là ou cette raison d'être, là vous êtes un peu limite dans les clous de la loi, etc. On sait que les auditeurs ont un code déontologique, etc., et qui sont pour beaucoup réticents à faire ça, mais on n'est pas dans un audit financier stricto sensu, il y a une dimension un peu plus qualitative. Mais après, comment vous positionnez par rapport à ça ?
Nous, je pense que ça nous paraît assez sain de conserver cette distinction claire entre le rôle d'audit et le rôle de conseil, comme c'est le cas, la distinction entre un commissaire aux comptes et un expert comptable. Parce qu'il y a quand même un problème de conflit d'intérêts, même si c'est de l'extra financier, je pense. Maintenant, il y a plusieurs choses possibles. C'est-à-dire que déjà, il faut savoir qu'on peut faire des audits à blanc, ce qui est quand même une bonne manière effectivement, de pointer des problèmes avant d'être dans un cadre strict d'audit, même si pour autant, ce n'est pas forcément du conseil. Et souvent, les audits à blanc ou pas à blanc, ensuite, effectivement, montrent qu'il y a besoin de conseils. Donc après, quand une entreprise a besoin de conseils, elle peut aller le prendre chez des experts, et dont certains d'ailleurs peuvent être aussi des acteurs qui ont une branche qui fait de l'audit OTI, exactement comme il y a des Big Four qui font du commissariat aux comptes et de l'expertise comptable. Je pense que ce système-là, je dirais qu'il a fait ses preuves. Je ne pense pas qu'il y ait besoin de réinventer quelque chose de différent dans notre cas. Distinction claire, mais ça n'empêche pas des acteurs de faire les deux métiers comme dans l'expertise comptable ou le commissariat aux comptes.
Après, l'OTI pointe soit des dysfonctionnements, soit peut-être des incohérences, soit des volets d'exhaustivité. Naturellement, l'entreprise, le fait de pointer ces sujets-là va permettre à l'entreprise de progresser. Après, soit elle le fait par elle-même, soit elle peut effectivement faire appel à un cabinet de conseil qui peut venir l'aider à.
Mais après, c'est vrai que dans la pratique de l'audit OTI, il y a sans doute une difficulté parfois où quand on écrit l'avis à la fin, on ne sait pas si on est en train de faire du conseil ou... Donc c'est ça, je pense aussi, la question peut-être de manière plus fine. Là, je pense que la réponse, c'est les échanges entre OTI, c'est les guides de bonne pratique de la SEM qui vont essayer de donner un cadre à ça. Je pense que c'est le discernement de chaque auditeur de rester dans son rôle. Mais effectivement, il y a un côté plus qualitatif sans doute peut-être dans le comptable où les normes existent depuis très longtemps et c'était plus facile de dire t'es du bon ou du mauvais côté de telle norme.
Si on regarde un petit peu dans les autres éléments très importants du dispositif de la société à mission, il y a le comité de mission. Le comité de mission, il bouleverse un petit peu les organes de gouvernance, la gouvernance d'une entreprise, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas trop où le situer, en fait, en fonction des organes qui peuvent exister dans l'entreprise. Il y en a qui aimeraient le rattacher au conseil d'administration, il y en a pour qui c'est presque un advisory board, il y en a pour qui c'est strictement lié à la mission, à la supervision de la mission, il y en a qui font des sous-comités de mission, etc. Enfin bon, il y a, encore une fois, la liberté laissée à la loi fait que chacun s'approprie un peu la chose. Est-ce que pour vous, ce serait utile de préciser davantage le rôle du comité de mission et surtout le rôle des membres du comité de mission ? Parce que ça, c'est un oublié dans la loi.
Oui, alors, est-ce qu'il faut le faire dans la loi ? Je ne sais pas, mais en tous les cas, au niveau de la communauté, il y a des groupes de travail qui travaillent justement là-dessus. Je pense qu'il y a des bonnes pratiques qui peuvent émerger, qui peuvent être d'ailleurs très différentes d'une entreprise à l'autre, parce que je vois les grandes entreprises avec conseil d'administration ou les petites entreprises que je connais peut-être mieux, les problématiques sont très différentes. Ou dans des entreprises engagées où il n'y a pas forcément de logique de rapport de force entre un comité de mission et un CA, il y a des grandes différences. Donc il faut vraiment avoir des bonnes pratiques, je pense, les mettre en lumière et avec des personas, si j'ose dire, d'entreprises très, très différentes. Ensuite, donc, est-ce qu'il y a besoin de le figer dans la loi ? Je pense qu'on verra en fonction de ce qui va remonter au fil du temps de ces recueils de bonnes pratiques. Ensuite, je pense qu'il y a un sujet qui est clé, qui est la formation des membres de comités de mission et une forme de professionnalisation. Je ne suis pas là en train de dire que tous les membres de comités de mission doivent être des professionnels qui font que ça, mais au même titre qu'aujourd'hui, il y a des formations pour être administrateur d'entreprise, il peut paraître logique qu'assez vite, on voit des formations pour des membres de comités de mission, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui réunissent des comités de mission, et non seulement, effectivement, le fonctionnement n'est pas très clair dans la loi, mais ça, à la limite, il faut plus le voir comme un espace de liberté, mais en plus, les membres qui arrivent ne savent pas très bien pourquoi ils sont là, connaissent pas forcément bien leur rôle, connaissent pas très bien toujours même le fonctionnement d'une société à mission. Et donc se dire, en fait, avant de réunir un comité de mission, je vais demander à mes membres de suivre telle formation. Alors, c'est peut-être, il peut y avoir des formations assez simples. Hein. En quelques heures, déjà, on peut avoir pas mal de rudiments. Je pense que c'est quelque chose d'assez important. Donc, voilà, sans dévoiler de scoop, je pense qu'on va travailler aussi là-dessus bientôt au niveau de la communauté.
En tout cas, ce que toutes ces questions pointent et justement la liberté qu'offre la loi, elle donne tout son sens à la communauté des entreprises à mission, c'est-à-dire ses pairs, ses chercheurs, ses entrepreneurs, ses salariés, ses actionnaires qui échangent, partagent avec comme objectif d'enrichir et dans un contexte d'amélioration continue. Donc on voit que vu la manière dont la loi a été décrite, l'intérêt de cette communauté est essentiel pour justement progresser et petit à petit affiner et proposer finalement, là on parlait des formations par exemple, ce qui n'est pas décrit ou proposé dans la loi, quoi.
Alors pour terminer sur le comité de mission, aujourd'hui la seule obligation c'est d'avoir un salarié. Et je vois beaucoup d'entreprises qui se posent la question de, alors au-delà de dire, alors on sait que les bonnes pratiques sont d'avoir des membres externes aussi à l'entreprise, des parties prenantes qui viennent nourrir la réflexion, mais il y a aussi cette question de, ok, un salarié, mais quel salarié, quelle est la place des organisations syndicales, des représentations du personnel, est-ce qu'on les associe ou pas? Est-ce que vous avez une réponse à ça?
Alors peut-être d'un point de vue très pragmatique, donner la réponse qu'on a pu appliquer pour l'entreprise que je dirige. En fait, on a fait un appel à candidature totalement ouvert. C'est-à-dire que ça a été aussi l'occasion de sensibiliser l'ensemble des collaborateurs sur ce qu'était l'entreprise à mission, sur ce qu'était un comité de mission, sur ce qu'on attendait d'un comité de mission. Et on a ouvert la possibilité aux 11 000 collaborateurs de venir participer en fait à la gouvernance de part de l'entreprise à travers ce comité de mission. Et ça a été très intéressant. C'est-à-dire qu'on a reçu beaucoup de candidatures de personnes qui se sont du coup renseignées, qui se sont un petit peu dévoilées, puisqu'on a demandé quelque part du dévoilement. Mais voilà, une expérience vraiment enrichissante en le faisant de cette manière-là. Et en ne donnant pas une place particulière aux représentants du personnel, en considérant qu'ils sont aussi des salariés comme les autres. Et naturellement, on a ouvert à ces personnes-là si elles le souhaitaient. Et il se trouve que c'est une personne qui n'est pas issue du monde syndical qui a été retenue. Mais voilà, une démarche très riche, en tout cas, en la pratiquant de cette manière-là.
D'accord. Moi, j'ai aussi testé un peu deux modèles. On a nommé quelqu'un et on a aussi testé d'avoir un représentant, alors non pas d'un conseil de représentation du personnel, mais d'un comité interne qu'on a créé, nous, dans le cadre de notre gouvernance partagée, où des salariés décident ensemble d'éléments sur le cadre de travail, etc. Donc ça s'appelle comité de gouvernance partagée chez nous, et on avait un moment une représentation de ce comité dans le comité de mission. Donc on a testé différentes choses, et aujourd'hui je serais bien en difficulté de vous dire la bonne solution. Donc je pense que là-dessus, on est vraiment au stade de l'expérimentation, de l'observation, et moi je me garderais bien d'avoir un dogmatisme sur le sujet. Voilà.
Alors je vous propose qu'on parle un petit peu de la communauté des entreprises à mission. On a déjà un petit peu parlé, mais c'est vrai que vous êtes maintenant en coprésidence de la SEM. La SEM est un des acteurs en soi dans l'écosystème de la responsabilité d'entreprise. On va faire ça de manière assez large. Pour vous, quel rôle devrait davantage jouer la communauté dans l'écosystème français aujourd'hui? Est-ce que c'est juste sur le développement de la société à mission, de représenter le cadre de la société à mission, ou ça pourrait dépasser, aller sur des notions d'impact d'entreprise, essayer de travailler davantage avec d'autres structures sur l'ESS, les coopératives? Comment est-ce que vous voyez un petit peu le positionnement de la SEM dans tout cet écosystème?
Peut-être deux éléments de réponse. Le premier, c'est qu'on s'intègre évidemment dans un écosystème où l'entreprise à mission est un cadre qui s'adapte à toute forme juridique. C'est important de le présenter. Donc c'est vraiment une représentation transversale. Et c'est en tout cas une solution. On ne dit pas que c'est la seule, mais en tout cas, l'entreprise à mission, c'est un des moyens pour finalement œuvrer à l'impact. Je crois qu'aujourd'hui, l'ambition d'améliorer les critères environnementaux, sociétaux est globalement partagée. La question est plutôt celle du comment, comment on y arrive, comment on progresse. Voilà, la société à mission permet d'amener en tout cas une des solutions.
Et la communauté des entreprises à mission a une mission, c'est aussi sa particularité. Notre mission, c'est partager autour de ce cadre de transformation qu'est la société à mission, promouvoir la société à mission et enrichir et un peu aussi jouer ce rôle de tiers de confiance dont on parlait. Donc je pense qu'il faut qu'on reste très cohérent par rapport à la mission qu'on a définie à la création de l'association, et avec juste un enjeu qui est, je pense, de marcher sur deux jambes, c'est-à-dire être à la fois ce lieu d'expertise dont je parlais, et je mets le PERT, PAIR et PERT, hein, avec aussi notre comité, notre conseil scientifique qu'il ne faut pas oublier, rester ce lieu d'expertise tout en montrant qu'on est une pièce d'un puzzle qui est plus large que la société à mission. Évidemment que société à mission va avec nouvelles formes de business model, comme on voit des réflexions très intéressantes aujourd'hui au niveau de la CEC ou de toute l'écosystème de la régénération. Évidemment que ça va avec des nouvelles cultures d'entreprise, des nouvelles cultures de management, avec des réflexions sur les normes comptables. Et donc, il faut qu'on arrive à montrer comment la société à mission et la communauté sont une pièce d'un dispositif un peu systémique de changement des entreprises. Mais il faut faire ça, mais tout en restant vraiment à notre place, qui est d'être ce lieu où on partage, où on promeut, où on enrichit, on est le tiers de confiance de la société à mission. Donc très clair sur notre ADN, notre mission. Parce que voilà, je pense que effectivement, dans le moment bouillonnant qu'on traverse, où il y a beaucoup de mouvements d'entreprise, nous on va travailler. On a d'ailleurs signé il y a pas longtemps un partenariat avec le CJD. On discute beaucoup avec la CEC, voilà, on est partenaire du mouvement Impact France, le ESS France, on va les rencontrer bientôt. Donc on a envie de travailler en partenariat, mais pour bien travailler en partenariat, je pense qu'il faut, c'est bien que chacun soit très clair sur ses missions. Et donc d'ailleurs, les mouvements comme le CJD ou la CEC sont assez au clair aussi sur finalement à quoi ils servent, emmener des dirigeants, parfois en travaillant plus sur la culture, sur le mouvement collectif, voilà. Et donc voilà, je pense que c'est en étant clair sur notre ADN qu'on arrivera à exploiter le potentiel de complémentarité avec tous les autres mouvements.
Alors justement, en termes de promotion de la société à mission, il y a un enjeu qui revient beaucoup, c'est la question du déploiement en région. De la communauté, plus spécifiquement, parce qu'en soi, la société à mission se déploie plutôt bien en région. Hein. Les chiffres de l'Observatoire montrent que c'est la dynamique est d'ailleurs même plus forte dans certaines régions qu'en Île-de-France. Comment est-ce que vous envisagez l'accélération du déploiement de la communauté en région? Est-ce que c'est un sujet, déjà? Et si oui, comment est-ce que vous avez des idées à partager?
Alors, est-ce que c'est un sujet? Oui. Et l'idée, c'est de prolonger ce qui a été initié et qui fonctionne bien, hein, puisqu'effectivement, le développement en région se fait. C'est de travailler à travers des ambassadeurs, donc en fait, des membres de la communauté des entreprises à mission qui vont finalement, à travers leur réseau, faire connaître, partager ce modèle. Et c'est de cette manière-là qu'il s'est déployé en région. Donc l'idée, c'est de se développer, de continuer à se développer sur d'autres régions de cette manière-là.
Parce qu'aujourd'hui, il y a déjà concrètement des ambassadeurs à Nantes, Lille, Lyon et en région PACA, à Rennes. Et il y a d'autres régions comme Pau, Toulouse, le Grand Est, où il y a un recrutement d'ambassadeurs en cours. Et ce qu'on essaye, c'est aussi au niveau local de créer un peu des groupes où il y ait des sociétés à mission, mais également des chercheurs d'universités ou de grandes écoles locales, et puis des consultants. Un peu comme on a fait depuis le début à la communauté, finalement d'associer ces différentes expériences, ces différentes expertises, pour reproduire un peu à l'échelle locale le fonctionnement national. Ensuite, voilà, on va, comme toutes les associations qui grandissent, qui se structurent en réseau, bien avoir à travailler cette complémentarité entre le local et le national. Et là-dessus, je pense que notre volonté, c'est de co-construire ça. C'est évidemment pas d'être une association qui impose un cadre de fonctionnement, mais de co-construire avec l'échelon local, et toujours aussi avec cette logique de partenariat, parce qu'on voit des associations comme le CJD ou la CEC avec qui on a des proximités évidentes qui se développent, et donc il faut que ça fonctionne bien ensemble au niveau local.
Ouais. Si on regarde un petit peu la communauté aujourd'hui, on est à peu près à 300 membres, hein, je crois, au niveau entreprise. Est-ce que vous avez des objectifs de croissance déjà plus ou moins précis, des ambitions, que ce soit dans le nombre absolu d'adhérents, ou à l'inverse, de se dire bah on aimerait que, je sais pas, 25-30% des membres de la des sociétés à mission soient membres de la communauté.
Alors je pense qu'on va essayer d'aller convaincre peut-être plus d'entreprises à mission, sociétés à mission, de rejoindre la communauté. Après, ce qu'il faut voir, c'est que dans les 1200, il y a quand même beaucoup de très petites entreprises qui n'ont pas toujours la bande passante pour faire partie d'une association professionnelle, d'une communauté. Mais oui, je pense que logiquement, si on veut être ce cadre, remonter toutes les bonnes pratiques déjà qui existent, diffuser le cadre d'exigence dans lequel on croit, plus on aura de sociétés à mission qui sont membres, tout en, et ben, plus on pourra diffuser ce cadre et appuyer les trois piliers de notre mission. Donc oui, mais après, on va pas non plus aller chercher tout le monde de manière extrêmement, je dirais, agressive commercialement. C'est pas l'objet. Mais...
Et alors, si je pousse un petit peu par rapport à ce que tu viens de dire, comment est-ce que la communauté, parce qu'en soi aujourd'hui, encore une fois, là on est à 300 sur 1200, et dans les 300 il y en a qui sont en chemin, qui ne sont pas encore sociétés à mission, comment est-ce que la communauté peut être le garant de cette exigence vis-à-vis de sociétés à mission qui sont très loin, mais qui finalement, pour ceux qui ne connaissent pas la communauté, se disent « Ah ben c'est ça une entreprise à mission Moi, je pensais que c'était quelque chose de plus exigeant, plus ambitieux, ou je doute un petit peu. Voilà, je me dis, celle-ci, c'est un peu du mission washing. Comment est-ce que la communauté peut vraiment jouer un rôle encore plus fort qu'elle ne le joue aujourd'hui ?
Je dirais que l'Observatoire peut avoir ce rôle, parce qu'aujourd'hui, l'Observatoire a vocation à référencer toutes les sociétés à mission, et pas uniquement celles qui sont membres. Donc déjà, sur l'Observatoire, montrer qui est à jour de ses obligations déclaratives, faire des études comme celle qui a été faite avec KPMG, où on analyse des missions. Voilà, quand on analyse les missions des entreprises référencées sur l'Observatoire, ce ne sont pas que des entreprises membres de la communauté des entreprises à mission. Donc voilà, l'Observatoire, pour nous, peut avoir ce rôle, on appelait ça service après-vote, mais de officiel presque, en lien avec peut-être l'État. D'ailleurs, il y a eu des subventions qui ont été versées pour développer cet observatoire. Donc c'est un rôle qui dépasse juste l'animation de la communauté de membres, clairement.
Alors peut-être deux questions pour terminer. La première, c'est sur le déploiement hors de France. Parce qu'aujourd'hui, c'est un frein aussi pour certaines entreprises qui sont implantées un peu partout dans le monde, ou même qui ont juste des activités à l'international, se disent le cadre de la société à mission est intéressant, mais il est franco-français. Moi, j'ai des activités à l'étranger, ça ne parle absolument pas du tout la société à mission, donc je vais me tourner vers d'autres orientations qui répondent pas a priori au même cahier des charges, mais peu importe, parce que ça parle plus à l'international. Il y a déjà des travaux qui ont été un petit peu lancés sur ce sujet-là au niveau de la SEM, avec un premier congrès. Il y a eu une visite à Bruxelles au Parlement européen il y a quelques semaines. Est-ce que c'est un enjeu pour vous de faire en sorte que la société à mission, ou peu importe le cadre qui adviendra, devienne quelque chose, un enjeu au niveau européen?
Alors c'est un sujet qu'Aymeric Jacquia est en train de prendre à bras le corps, donc ça va avancer. C'est déjà la première réponse qu'on peut donner. Mais effectivement, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que déjà, il y a des pays voisins, comme la Belgique, qui observent ce qui se passe en France et qui ont envie d'adopter un peu un fonctionnement similaire. Donc il y a actuellement des échanges assez approfondis avec nos voisins belges qui commencent à adopter les principes de la société à mission, sans forcément d'ailleurs qu'il y ait de loi tout de suite dans leur pays. Donc ça, c'est le premier point, c'est de travailler, je dirais, dans des pays voisins qui s'intéressent, et d'essayer de, comme la communauté d'entreprises à mission a été créée avant la loi Pacte, et donc on peut tout à fait créer des associations qui défendent ce fonctionnement, cette nouvelle forme de gouvernance avec une mission, avec un double contrôle, dans des pays en amont même de loi. Ça, c'est un premier axe d'action sur lequel Emery travaille, notamment avec les contacts avec la Belgique, ou aussi une association qui existe en Italie qui a déjà un statut d'entreprise là-bas. Et ensuite, la deuxième chose, c'est d'essayer de travailler au niveau européen pour qu'il y ait éventuellement une directive qui incite tous les pays membres à mettre dans leur loi une qualité de société à mission. Et le gros intérêt, c'est que finalement, si on regarde la loi Pacte, ça tient en une demi-page, la qualité de société à mission. C'est pas une nouvelle forme juridique, c'est pas un nouveau statut, c'est vraiment une nouvelle forme de gouvernance qui s'applique à tout type de forme juridique. Et donc, on pense que c'est déployable finalement de manière assez simple à l'échelle européenne. Et on pense que c'est très complémentaire avec ce qui est en train de se... les réglementations qui se font aujourd'hui au niveau européen, qui sont plus dans des logiques finalement normatives, avec des référentiels sur les types d'investissements, les types de fonds d'investissement, de permettre aux acteurs économiques d'affirmer leur singularité avec la mission.
Alors pour terminer, une question sur les ambitions que vous donnez. C'est de se dire, là, vous prenez un nouveau mandat. À la fin de votre mandat, qu'est-ce qui ferait que vous seriez satisfait de l'action que vous avez menée?
Finalement, ça fait une belle conclusion en reprenant un certain nombre d'éléments qu'on a évoqués. Le premier, c'est le développement. Le développement. Aujourd'hui, on a 1200 sociétés à mission. L'enjeu, c'est effectivement que ce nombre augmente, mais qu'il augmente de manière qualitative. Et pour reprendre un terme utilisé tout à l'heure, avec probablement quelques rôles modèles ou quelques entreprises un petit peu phares qui montreraient la voie, quelques précurseurs dans chacun des grands secteurs d'activité pour donner envie aux autres d'y aller. Donc là, on a un enjeu effectivement assez fort côté PME et grandes entreprises, développer tout ce volet-là. Et c'est d'ailleurs aussi le sens de notre coprésidence, premier point. Deuxième volet, le volet exigence, on en a aussi beaucoup parlé. C'est-à-dire faire en sorte qu'on ne soit pas estampillé société à mission juste pour l'être, mais bien pour avoir une mission placée au cœur de la stratégie qui permette de transformer le modèle de l'entreprise. Et donc ça va être avec des preuves. Et donc des grandes fiertés, ça serait de montrer que cette qualité permet effectivement de transformer les entreprises. Et puis le dernier volet, on vient d'en parler, c'est la dimension européenne. Donc se dire qu'au niveau de l'Europe, on arrive à trouver une qualité ou une forme de capitalisme un petit peu plus vertueux qui permette d'inventer le monde auquel on rêve tous.
Alors tous les épisodes du podcast se terminent par le coup de cœur musical, alors normalement de l'invité, mais là vous êtes deux et je crois que en l'occurrence vous en avez quand même un seul. Donc est-ce que vous pouvez nous partager votre coup de cœur?
Alors on en a parlé, c'est pas un morceau très actuel, mais néanmoins on trouve qu'il est très moderne dans le contexte, c'est « Je rêvais d'un autre monde », des téléphones. Et on trouve que ça vient dire beaucoup de choses sur l'enjeu et les défis qui nous attendent aujourd'hui. Et pour le coup, côté société à mission, la conviction que l'on a que les entreprises ont leur part à prendre dans ces défis qui nous attendent.
Bien, c'est parfait, on va l'écouter. Choix musical, je trouve plutôt bien approprié pour ce dont on vient de parler. En tout cas, un grand merci à vous. Je vous souhaite bonne chance pour votre mandat. Je le disais au début, la société à mission est un moment un peu charnière de son évolution, de son développement. Et je n'ai aucun doute sur le fait que vous soyez tout à fait bien équipé pour réussir le bon développement de la société à mission en France et j'espère effectivement à l'étranger. En tout cas, merci beaucoup de votre temps et puis je vous dis à bientôt.
Merci, à bientôt.
Merci Vivien.
Merci de votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager à votre réseau. Et en plus, je sais, j'en demande beaucoup, à noter l'épisode ou le podcast sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est vraiment important pour en améliorer le référencement. Également, si jamais vous avez des idées d'entreprises à mission que je pourrais interroger, ou des recommandations d'experts thématiques qui vous ont vraiment marqué, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn ou directement par email à vivien@lamachineasens.fr. C'est terminé pour aujourd'hui, n'hésitez pas à retrouver les précédents épisodes, et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine rencontre.